أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
دنیا میں کوئی انسان نہیں جو ہر عیب سے
En ce monde, personne n'est exempt de tout défaut.
اللہ تعالیٰ کی صفت ستار ہے.
Allah, à travers son attribut de ستار, couvre nos faiblesses.
اگر انسان کی
Si nos erreurs, nos failles, nos péchés étaient dévoilés au grand jour, nous n'oserons point nous montrer à autrui. Allah l'exalté est celui qui couvre les faiblesses et celui qui pardonne les péchés. Et en nous accordant sa grâce, il nous conseille de prier tout en évitant les erreurs et les écarts de conduite. Et il nous demande aussi d'accomplir par la même occasion l'istighfar. Ce faisant, Allah nous pardonnera nos péchés et il couvrira nos faiblesses et il exaucera nos prières. Allah dissimule en général les défauts de tout le monde. Le pardon d'Allah couvre en particulier ceux qui accomplissent l'istighfar, ceux qui implorent le pardon divin. D'ailleurs, le verbe « ghafara » signifie « cacher et couvrir ». Et le verbe « sattar » présente plus ou moins le même sens. Le Messie premier d'Islam déclare dans un endroit « Le Dieu présenté par l'Islam, le Dieu qui a été accepté par les musulmans est gracieux, miséricordieux, indulgent, clément et très pardonnant. » Allah accepte le repentir de celui qui se repent sincèrement et il lui pardonne ses péchés. Or, en ce monde, qu'il s'agisse de son frère de sang ou d'un autre proche, s'il a vu une fois votre défaut, il vous considère toujours fautif en dépit du fait que vous vous en êtes débarrassé. Ainsi, en ce monde, même si l'on s'est débarrassé de son péché et de son défaut, on est toujours considéré fautif et on est toujours regardé avec suspicion. Or, ajoute le Messie premier d'Islam, Dieu est si gracieux que lorsque l'homme se tourne vers lui, malgré ses innombrables défauts, il lui accorde son pardon. Hormis les prophètes, il n'existe personne d'autre qui se pare ainsi des couleurs divines. Il n'y a pas de personne aussi clémente que les prophètes et qui couvre les défauts d'autrui à l'instar de Dieu. Hormis les prophètes de Dieu, personne d'autre n'agit de la manière de Dieu. Sardi, quant à lui, a décrit la situation générale de l'homme dans ses vers dans lesquels il déclare qu'Allah cache les défauts de l'homme en dépit d'en avoir connaissance. Or, le voisin, ayant eu la moindre connaissance des défauts d'autrui, le crie sur tous les toits. En expliquant ce vers de Sardi qu'il a cité, le Messie premier al-Salam déclare « Allah a connaissance des défauts de l'homme. Mais en raison de son attribut d'As-Sattar, il couvre ses offenses tant que l'homme n'outrepasse pas les limites de la modération. » Mais l'homme, quant à lui, même sans avoir vu les défauts d'autrui, le crie sur tous les toits. Ainsi, dit le Messie premier al-Salam, voyez à quel point ses attributs de grâce et de miséricorde sont sublimes. Le Messie premier al-Salam ajoute, si Allah l'exaltait, commençait à demander des comptes à l'homme, eh bien, il allait détruire tout le monde. Mais sa clémence et sa miséricorde sont très vastes et ont prééminence sur sa colère. Si nous comprenons ce point et si nous n'espionnons pas nos compagnons, nos frères et nos relations, si nous ne cherchons pas constamment leurs défauts, si nous ne les espionnons pas, si nous ne cherchons pas leurs faiblesses, nous pourrions en ce cas établir une société où règne l'amour et l'affection et la paix. Beaucoup parmi nous, au lieu de couvrir les défauts des autres, tentent de les dévoiler au grand jour. Et si on dit quelque chose à propos de ces personnes, ou si par un moyen quelconque, ils ont su qu'un tel a émis des critiques à son encontre, eh bien, ces personnes se mettent dans une colère noire. Ces personnes sont prêtes à en venir aux mains. Cependant, lorsqu'ils sont en train de parler d'autrui, ils disent que c'était une parole superficielle, une parole superficielle qu'ils ont énoncée en passant. Nous devrons toujours avoir en tête cette parole du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à savoir d'aimer pour son frère ce que l'on aime pour soi-même. Si l'on souhaite qu'on couvre ses défauts, il faudra traiter autrui de la même manière. C'est un principe d'or essentiel pour préserver la paix de la société. Ainsi, en voyant le tort d'autrui, au lieu d'en faire la publicité, nous devrions tous accomplir l'istighfar. Allah, quant à lui, est indépendant, et l'on doit aussi craindre le fait de voir étaler au grand jour les innombrables défauts que nous possédons. Si, en toute bonne intention, l'on couvre les faiblesses d'autrui, en ce cas, l'on méritera les faveurs divines. Que l'on se souvienne de cette parole du Messie premier al-Islam, le Messie premier al-Islam qui déclare que si Dieu commence à demander des comptes, eh bien, en ce cas, il détruira tout le monde. Ainsi, c'est une situation très inquiétante et il faudra constamment accomplir l'istighfar. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré à une occasion: Dieu, au jour de la résurrection, couvrira les défauts de celui qui cache les défauts de son frère ici-bas. Dieu manifestera en sa faveur son attribut de Sattar. Quant à celui qui dévoile les faiblesses de son frère musulman, celui qui informe les autres à propos des vices d'autrui, Allah dévoilera ses erreurs de conduite tant et si bien qu'il l'humiliera dans sa maison. C'est là un avertissement très sévère, c'est une situation très inquiétante. Afin d'attirer les faveurs divines, il faudra, de tout temps, au lieu de chercher les défauts d'autrui, examiner sa propre personne. C'est là que nous allons attirer les faveurs divines. D'aucuns disent, si nous ne dévoilons pas les vices d'autrui, comment pourra-t-il se réformer? Sachez que si le vice d'une personne est en train de nuire à la Nizam et Jamaat, à l'organisation de la Jamaat, ou si ce vice est en train d'affecter une couche de la société et de la corrompre, il faudra en informer ceux qui sont responsables d'apporter la réforme, qu'il s'agisse de l'amir de la Jamaat, du président de la Jamaat, ou on doit m'en informer afin qu'il y ait de la réforme. Allah non plus ne désire pas que l'organisation de sa Jamaat soit corrompue. Il ne souhaite pas qu'un vice individuel se transforme en vice de la société. C'est pour cette raison qu'Allah dévoile les défauts de ceux qui persistent à répandre ces vices, ces personnes qui persistent à commettre les vices dont ils sont coupables. Tout comme l'affirme le Messie premier alayhi salam, Allah voit les péchés et les fautes d'autrui. Or, en raison de ses attributs, il couvre les défauts des coupables. Il couvre les défauts des coupables tant qu'il n'outrepasse pas les limites de la modération. Quand l'homme se dévoile de son propre chef, quand il outrepasse les limites de la modération, eh bien, l'attribut d'Allah ayant trait au châtiment entre en action. Quand il dévoile tout, Allah l'exalté peut le châtier ici-bas et il méritera aussi le châtiment de l'au-delà. En tout cas, il est interdit d'étaler au grand jour les torts d'autrui. Car au lieu d'endiguer ces offenses, cela les propagera davantage. L'on ne doit jamais oublier la prescription du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à cet égard. Le saint prophète Mohammed Pessoa lui a déclaré: vous corromprez autrui si vous étalez au grand jour ses faiblesses. Si vous allez l'espionner pour tenter de découvrir ses faiblesses, si vous allez étaler ses faiblesses au grand jour, eh bien, vous allez corrompre ceux qui sont coupables et cela mettra à mal la paix de la société. Lorsqu'on va étaler au grand jour les défauts d'autrui, eh bien, les coupables, au lieu de se réformer, s'entêteront davantage et ils tenteront aussi d'inspirer les autres à prendre la même voie. Et ils élargiront le cercle de leur influence. Il n'y aura plus de voile. Et lorsqu'il n'y aura plus de voile, eh bien, la réforme ne sera plus possible. Je voudrais ici attirer l'attention de ceux qui détiennent des responsabilités au sein de la Jamaat, en particulier des départements responsables de la réforme. Ils doivent effectuer la réforme avec une extrême prudence et en étant animés de compassion. Aucun individu ne doit ressentir que tel titulaire de poste a divulgué au public ses défauts. S'il y a ce ressenti de la part du concerné, eh bien sa réaction sera très vive. Les responsables de la réforme qui étalent au grand jour les fautes d'autrui, eh bien ils engendrent d'une part la corruption au sein de la société, et il s'attire d'autre part à la colère d'Allah, l'exalté. Allah l'exalté leur dira, « Je vous ai offert l'occasion de servir la Jamaat. Je vous ai offert cette occasion afin que vous puissiez adopter, dans la mesure du possible, mes attributs. Or, vous allez à contre-courant de mon attribut d'Asatar. Et vous êtes en train d'engendrer de la frustration et des troubles. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous explique à quel point Allah l'exalté aime couvrir les défauts d'autrui et jusqu'à quel point il récompense ceux qui le font. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré « Un musulman est un frère d'un autre musulman. » Il ne laisse pas son frère musulman et il ne l'abandonne pas non plus. Au grand malheur des musulmans, nous constatons aujourd'hui que ce sont les musulmans qui laissent le plus les autres musulmans. Les musulmans sont en train de s'entretuer et personne ne se soucie de cette injonction du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En tout cas, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam affirme plus loin qu'Allah l'exalté subviendra aux besoins de celui qui soutient son frère. Au jour de la résurrection, Allah soulagera un des malheurs qui accable celui qui a allégé la souffrance d'un musulman ici-bas sur terre. Et au jour de la résurrection, Allah l'exalté dissimulera les fautes de celui qui couvre les faiblesses d'un musulman. Ainsi donc, afin de s'attirer la grâce et la compassion d'un Dieu aussi gracieux et compatissant, il est essentiel de cacher les défauts d'autrui. Le saint prophète Mohammed a aussi déclaré dans un autre hadith qu'au jour de la résurrection, Allah, l'exalté, dissimulera les défauts de celui qui cache les torts d'autrui ici-bas. C'est-à-dire qu'Allah l'exalté récompense nécessairement celui qui cache les défauts d'un autre. Allah l'exalté consignera une bonne œuvre dans le compte de celui qui a caché un défaut de son frère. Et au jour de la résurrection, il sera récompensé. Allah l'exalté fermera les yeux sur ses manquements. Voir Allah l'exalté est si bienveillant et si gracieux à l'égard de ses serviteurs que, selon un récit, il demandera à ses serviteurs « Avais-tu commis telle ou telle action ?» Quand l'homme répondra à l'affirmative, Allah l'exalté va déclarer « Sur terre, j'ai caché tes faiblesses et le monde ignore les torts que tu as commis. Aujourd'hui, au jour de la résurrection, je cacherai tes défauts et je t'accorde mon pardon. C'est ainsi qu'Allah traite ses serviteurs. Ainsi donc, si nous souhaitons profiter de l'attribut d'Assattar d'Allah l'exalté, il nous incombe de cacher les défauts d'autrui. Personne ne doit croire qu'il est exempt ou qu'elle est exempte des fautes et que les autres en possèdent. De par sa grâce, Allah l'exalté couvre nos faiblesses. Ainsi donc, n'oublions jamais ce que le Messie premier al-Islam nous a expliqué. Il nous a expliqué qu'en raison de son attribut d'Assattar, Allah l'exalté cache les défauts de l'homme. D'ailleurs, c'est cet attribut divin qui a rendu pieux de nombreuses personnes. Si Dieu l'exalté n'avait pas couvert l'homme, eh bien la salissure que recèle le fort intérieur de l'homme serait connue de tous. C'est un point qu'il ne faudra jamais oublier. Tout en accomplissant l'istighfar afin de mériter le pardon d'Allah l'exalté, tout en examinant sa propre personne, il faudra aussi fermer les yeux sur les faiblesses d'autrui. Il faudra fermer les yeux sur les faiblesses d'autrui et il faudra éviter de les étaler au grand jour. Il faudra en premier s'examiner. Et il faudra se dire que l'on doit couvrir les défauts d'autrui tout comme Allah l'exalté a couvert les siens. Le Messie premier al-Islam a déclaré à une occasion: la grandeur de la foi de l'homme réside dans son adoption des excellences et des attributs divins. La grandeur de sa foi réside dans le fait qu'il doit se parer des couleurs divines. À titre d'exemple, Allah l'exalté est pardonnant, l'homme aussi doit pardonner. Dieu est miséricordieux, il est doux, il est bienveillant. L'homme doit l'être aussi à l'égard de son prochain. Il doit être doux, bienveillant et miséricordieux à l'égard de son prochain. Allah l'exalté est Assattar et l'homme aussi doit se parer de cette couleur et il doit fermer les yeux sur les défauts, les offenses et les péchés de son frère. Le Messie premier al-Islam ajoute: certains n'arrivent pas à digérer leur nourriture tant qu'ils n'étalent pas au grand jour les défauts de leurs frères. Selon un hadith, Allah, l'exalté, ferme les yeux sur les faiblesses de celui qui cache les défauts de son frère. L'homme ne doit point être orgueilleux. Il ne doit pas être coupable d'indécence et il ne doit pas être coupable de maltraitance à l'égard d'autrui. Il doit au contraire le traiter avec affection et bienveillance. On évoqua un jour, dans une réunion en compagnie du Messie premier al-Islam, les faiblesses d'un individu. Après avoir tout écouté, le Messie premier al-Islam s'est adressé à celui qui avait émis ses critiques en disant: tu as décrit et tu as dénombré avec véhémence ses défauts. Il serait tout à fait louable de ta part d'évoquer ses bonnes qualités, des bonnes qualités qu'il doit certainement posséder. Afin de débarrasser la société des vices, afin de répandre la paix, l'amour et l'affection, il est essentiel de couvrir les défauts d'autrui. et il est essentiel de mettre en exergue ses vertus. En dévoilant les bonnes qualités d'autrui, l'on encourage les autres à accomplir de bonnes œuvres. Le véritable musulman doit répandre le bien dans la société, étaler au grand jour les erreurs de conduite d'autrui par plaisir, étaler au grand jour les erreurs de conduite d'autrui pour susciter une joie éphémère et une joie feinte ou pour égayer les autres, et bien pareille action tombe dans la catégorie de péché gravissime. Ridiculiser autrui dans une réunion est un péché très grave. C'est un péché très grave que tout Ahmadi doit tenter d'éviter. En prêtant allégeance au Messie premier l'Islam, nous promettons de ne point nuire à autrui, ni par nos mains, ni par nos langues. Il nous incombe donc de respecter ce serment que nous avons pris. Une blessure causée par la langue se cicatrise lentement. Ridiculiser autrui ou étaler sur la place publique ses défauts laisse parfois des marques permanentes. Ainsi, nous devrons de ce fait être très prudents. Nous devrons ressentir en nos cœurs une sympathie sincère et de la bienveillance à l'égard de nos frères. Nous ferons montre d'une vraie sympathie en cachant les faiblesses de nos frères. Nous ne devrons jamais, ni en plaisantant, ni en étant sérieux, dévoiler les défauts d'autrui. Une sympathie sincère exige que l'on tente de réformer autrui lorsqu'on constate chez lui des manquements, afin qu'il puisse se débarrasser de ses manquements. Si ce vice laisse son empreinte sur la société, ou si ce vice peut occasionner des effets néfastes, l'on pourra ainsi l'en protéger. En effet, ce sera là une bonne œuvre, une œuvre qui va attirer les faveurs d'Allah l'exalté. Qu'est-ce que le Messie premier l'Islam souhaitait de notre part à ce sujet? Il déclare: conseiller en aparté celui qui est coupable d'inconduite. Il faudra le conseiller dans un coin. S'il n'accepte pas ses conseils, il faudra prier pour lui. C'est bien s'il accepte ses conseils, il faudra prier pour lui au cas contraire. Si ces deux actions sont sans effet sur lui, si les conseils et les prières n'ont pas d'effet sur lui, eh bien en ce cas, il faudra considérer cela comme un décret divin. Il faudra l'accepter comme le désir de Dieu. Étant donné qu'Allah l'exalté l'a accepté, il ne faut point se mettre en colère dès que vous voyez ses moindres fautes. C'est-à-dire, Allah l'exalté lui a permis d'accepter le Messie promis l'Islam et de se joindre à sa jamaat. Selon vous, il n'a pas été diffamé comme il se doit pour l'offense qu'il a commise. On est en train de couvrir ses défauts, mais vous êtes les seuls à en avoir connaissance. Mais ce n'est pas la peine d'en être furieux. Préservez votre calme. Allah lui-même trouvera un moyen pour effectuer sa réforme. Le Messie premier l'Islam ajoute: il se peut qu'il se corrige tôt ou tard. L'on comprend ici que selon le Messie premier l'Islam, selon lui, le fait qu'une personne ait accepté l'Ahmadiyya, qu'un individu soit Ahmadi, qu'il lui ait prêté allégeance, eh bien c'est ainsi que cet individu a été accepté par Dieu. Étant donné qu'Allah l'exalté l'a accepté, autrui n'a pas le droit de chercher ses défauts personnels pour les divulguer. On n'a pas le droit de l'espionner pour ensuite étaler au grand jour ses méconduites. On n'a pas le droit non plus d'exprimer son dégoût à son sujet devant les autres. Selon le Messie promis d'Islam, il se peut que cette personne se réforme par la suite. Il explique dans la même foulée, même de très grands saints commettent parfois des fautes. Il est même dit que de grands saints commettent des fautes. Il est dit, selon le Messie promis d'Islam, que même un saint aurait pu commettre de l'adultère. Nombre de voleurs et d'adultères se transforment en saints en fin de compte. Le Messie promis d'Islam déclare, « Ce n'est pas dans mes mœurs de vouer autrui à la perdition de manière précipitée. » Celui dont l'enfant est corrompu s'évertuera à le réformer. De même, l'on ne doit pas abandonner son frère. Tout comme l'on tente de corriger son enfant, de même l'on doit tenter de débarrasser son frère de ses défauts. Il faudra à la fois faire des efforts et prier pour lui. L'on doit certainement faire des efforts pour le réformer. Le Messie promis d'Islam ajoute, le Saint-Coran ne préconise point de divulguer sur la place publique les défauts d'autrui et d'en faire mention à droite et à gauche. Le Saint-Coran nous conseille « Watawasaw bi sabri, watawasaw bi marhama ». C'est-à-dire de prodiguer des conseils avec patience et compassion. Marhama signifie conseiller autrui après avoir vu ses défauts. Il faudra aussi prier en ce sens, car la prière est très efficace. Il est fort lamentable celui qui évoque des centaines de fois les défauts d'autrui, mais qui ne prie même pas une fois pour lui. L'on est permis d'évoquer les défauts d'autrui après avoir prié pendant 40 jours pour lui, les yeux en larmes. Cela ne signifie pas qu'il est permis par la suite d'étaler au grand jour les défauts d'autrui. Le sens de se dire est que celui qui souhaite apporter la réforme doit en premier lieu faire des efforts et prier avant d'émettre des doléances. Le Messie promis d'Islam ajoute, cela ne signifie pas qu'il faut encourager le mal. Cela ne signifie pas de louer celui qui possède ses défauts ou celui qui possède ses faiblesses. Certes, il ne faut pas encourager l'intéressé à commettre le mal, mais il ne faut pas non plus divulguer ses écarts de conduite à tout le monde et il ne faut pas non plus médire à son sujet. Il ne faut pas étaler en public ou en faire mention en privé, car selon le livre d'Allah, cela est un péché et tombe dans la catégorie de la médisance. Le Messie promis d'Islam ajoute, Cheikh Saadi avait deux disciples. Le premier énonçait des paroles pétries de vérité et de savoir. C'était un élève assidu, mais le deuxième le jalousait parce qu'il n'était pas aussi capable que le premier. Un des deux disciples était intelligent, le deuxième ne l'était pas tellement et il était jaloux du premier. En fin de compte, le disciple intelligent a dit à Saadi, « Lorsque j'énonce quelque chose, eh bien, mon compagnon est jaloux de moi. » Cher Saadi répondit, « L'autre a pris la voie de l'enfer en étant jaloux de toi. » Il a pris la voie de l'enfer parce qu'il était jaloux de toi, mais tu as été, quant à toi, coupable de médisance. Ce que tu m'as dit là n'est pas bien. En commettant la médisance, tu as, toi aussi, pris la voie de l'enfer. Ainsi, tous deux ont été pécheurs. Le Messie promis d'Islam déclare, après avoir cité cet incident, cette communauté ne progressera pas tant qu'il n'y a pas de compassion, de prière, tant qu'il n'y aura pas d'indulgence et de bienveillance. En prêtant allégeance au Messie promis d'Islam, nous promettons d'apporter des changements purs en nos personnes. Or, si nous sommes influencés par la société d'ici-bas, et si nous ne tentons pas de copier les attributs divins, si nous ne tentons pas de suivre ses commandements, eh bien, en ce cas, nous serons coupables d'avoir enfreint l'engagement que nous avons pris. Nous ne serions pas à la hauteur des attentes du Messie promis, alayhi salam. Le Messie promis, alayhi salam, souhaitait que nous prions les uns pour les autres. Il souhaitait que nous éprouvions une compassion mutuelle. Il souhaitait que nous couvrions les défauts des uns et des autres. Il nous conseille ceci. Il faudra que les membres de ma jamaat prient pour leurs frères qui possèdent un défaut. Ils seront coupables de péché s'ils ne prient pas pour lui et s'ils en font mention partout. Tout défaut est susceptible d'être corrigé, d'où l'importance d'aider son frère par l'entremise des supplications. Quand nous allons nous entraider par la prière au lieu de chercher les défauts des autres et au lieu de mettre à jour les faiblesses d'autrui, lorsque nous allons prier les uns pour les autres, c'est là que nous serons la véritable jamaat que souhaitait voir le Messie promis, alayhi salam. En accord aux directives du saint prophète Mohammed Bessas, lui, tel doit être l'état d'un véritable musulman. Cet état nous fera mériter le pardon d'Allah et couvrira nos manquements. Le saint prophète Mohammed Bessas, lui, nous a enseigné une prière pour nous faire mériter la protection d'Allah et ses faveurs. C'est une prière que nous devrons réciter souvent. Il s'agit de cette prière « Oh Allah, j'implore ton pardon pour cette vie ici-bas et dans l'au-delà. Mon Seigneur, j'évoque ton pardon et ta protection pour ce qui est de ce monde, pour ce qui est de ma foi, des biens matériels, de la famille. Oh Allah, masque mes faiblesses, éloigne mes peurs et remplace mes peurs par la sérénité. Oh Allah, protège-moi, devant moi, derrière moi, à ma gauche et à ma droite. » Au-dessus de moi. Je souhaite trouver refuge dans ta grandeur contre tout problème dissimulé. Lorsque nous faisons cette prière pour nous, nous devrons aussi avoir les mêmes sentiments à l'égard d'autrui. Lorsque nous agirons de la sorte, Allah l'exalté acceptera nos prières, qu'Allah fasse que nous puissions avoir son plaisir. Après la prière, je vais diriger la prière funéraire en absence de Malik Salim Latif Saheb, avocat et président de la Jamaat de Nankana Saheb au Pakistan. Il était le fils de Malik Mohammad Shafi Saheb. Il était âgé de 70 ans. Hier, le 30 mars 2017, le matin aux alentours de 9 heures, il était sorti avec son fils pour aller au tribunal. Quand un ennemi de l'Ahmadiyya lui a tiré dessus et il est tombé en martyr. Inna lillahi wa inna ilayhi rajoun. L'Ahmadiyya entra dans la famille du défunt par l'intermédiaire des deux oncles paternels de son père, Mohammad Shafi Saheb. Ses deux oncles s'appelaient Hafiz Nabi Bakhsh Saheb, qui était un compagnon du Messie promis alayhi salam, et le deuxième s'appelait Jamaluddin Saheb, qui était également un compagnon du Messie promis alayhi salam. Ils étaient originaires de Chak Sardullah dans les environs de Qadian. Le père du défunt était né Ahmadi, et avant la partition, il était venu s'installer à Nankana Saheb. Le martyr était né en 1948 à Nankana. Il a fait ses études élémentaires à Nankana. Ensuite, il a complété ses études de droit à Lahore et il a commencé à exercer à partir de 1967. Selon les faits, le martyr partait à moto au tribunal vers 9 heures du matin, accompagné de son fils, l'avocat Mohamed Farhan. Il conduisait la moto lorsqu'ils sont arrivés tout près d'un carrefour. Un homme leur fit un signe de s'arrêter et en raison du virage, la moto roulait déjà doucement et cet homme a tiré sur les deux passagers et le défunt a reçu des balles du côté droit. L'assaillant a rechargé son arme et a tiré de nouveau et il a touché le dos du défunt. Le défunt est tombé. Il a tiré sur le fils, mais il a échoué. et son fils récitait la kalma à voix haute, mais les gens qui étaient autour n'ont rien fait, ils n'ont pas essayé d'intervenir, ils se contentaient de regarder toute la scène. L'assaillant n'a pas réussi à tirer de nouveau et il a pris la fuite. Mais le défunt avait déjà succombé de ses blessures. Lors de la partition, le père du défunt était inspecteur des revenus en chef et son père a permis à de nombreuses familles Ahmadi de s'établir à Nankana Sahib après la partition. Il les a énormément aidés. Et il peut pas un quartier de Nankana d'Ahmadi, un quartier qui s'appelait Kuch Ahmadiyya. Par la suite, en 1974, lorsqu'il y a eu des lois passées contre la communauté Ahmadiyya, suite à la pression des opposants de l'Ahmadiyya, on a changé le nom de ce quartier en Kadhafi Street. En 1977, jusqu'au jour où il est tombé en martyr, le martyr a occupé le poste de président de l'Ajmat de Nankana Sahib, sauf pour une année. Il avait de nombreuses qualités, il était exemplaire dans son hospitalité, en particulier envers les invités du centre, il aidait également les pauvres. Il était toujours prêt à aider tout le monde, il était constant dans ses prières, il était très attaché au califat. C'était un homme brave et courageux. Il a dû faire face à de vives oppositions, à l'instar des autres membres de la Jamaat. En 1989, les opposants de la Jamaat ont brûlé et pillé de nombreuses maisons d'Ahmadi. Et la maison du défunt a aussi été pillée et brûlée. Malgré cette hostilité, le défunt était toujours ferme et il a toujours tenu tête aux opposants avec bravoure. En 2010, il a eu l'occasion de contribuer pour la construction d'une mosquée Ahmadi dans la région. Son épouse a également eu l'opportunité de servir en tant que présidente de l'Ajna pendant une longue durée. Elle est décédée quelques années de cela. Le beau-père du martyr Malik Din Saab faisait l'objet du célèbre procès de Sahiwal et il était décédé en prison. Le martyr laisse derrière lui deux fils, Malik Owais, qui était un juge civil à Lahore, et Mohamed Farhan, qui est avocat et qui est aussi le caïd de la Khuddamul Ahmadiyya. Il laisse derrière lui une fille, la docteur Samra Wakar Saheba, qui est à Lahore. Il avait trois frères et trois sœurs. L'un de ses frères, qui s'appelle Malik Mohamed Nassim Saheb, est ici à Londres. Le père du défunt était apparenté à la mère du docteur Abdussalam Saheb. En accord aux souhaits du défunt et de sa famille, il a été enterré dans son village natal à Sahiwal. Qu'Allah exalte le rang du martyr et qu'il fasse que ses enfants puissent marcher sur ses pas, qu'ils puissent suivre la voie de la piété, et qu'il punit dans les plus brefs délais les ennemis de l'Ahmadiyya et ses opposants.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.